Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
6 points à 4 pour Carlos Alcaraz. Il vient de se créer sa quatrième balle de match sur une merveille d'amorti.
Well, first of all, I want to congratulate Carlito. Right now, you are the best player in the world.
Premièrement, j'aimerais dire bravo à Carlos. Je pense que maintenant, tu es le meilleur joueur du monde.
Deuxième balle de service. Et dedans, sur le regard de Covifilé, c'est gagné. C'est gagné pour Carlos Alcaraz à l'issue du final parfaitement maîtrisé.
Il a très bien tenu ses nerfs. Pour quelqu'un de son âge, jouer avec une telle maturité et un tel courage, c'est vraiment impressionnant.
Il monte, c'est fini. Attaque gagnante, Carlos Alcaraz remporte son premier Wimbledon.
Carlos n'a pas encore 23 ans. Nous devons nous rappeler de son âge et ce qu'il a déjà fait à son âge. Ce n'est pas quelque chose de normal.
Oh, c'est fini. C'est fini. Carlos Alcaraz remporte son premier Roland-Garros. Victoire en 5-7. Victoire époustouflante. Match de légende sur le Châtrier. Et bravo Carlito.
L'Espagnol Carlos Alcaraz.
Il était fatigué, Eric. Hein. Le 15e jour, match de légende.
Oui, je ne sais pas qui commentait, mais il était bon. Il a déjà son documentaire sur Netflix. Pas Eric Salio, évidemment. Seulement 21 ans.
Quoique. Ce serait intéressant.
Tout est déjà dans le titre, d'ailleurs. Carlos Alcaraz à mi manera. Comprenez, Carlos Alcaraz à ma manière et sa manière pour devenir un champion interroge justement jusqu'à ses plus proches, à commencer par son coach Juan Carlos Ferrero, qui doute de son poulain, qui doute de sa capacité à devenir une légende de son sport. Pourtant, l'Espagnol compte déjà 4 grands chelems à 21 ans. Il est en avance sur les 3 fantastiques au même âge. Nadal en avait 3, Djokovic en avait 1 et Federer en avait 0. La musique qui fout les jetons est cette question. Il est en avance. Mais un champion peut-il renoncer à écrire l'histoire? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Bien sûr que oui.
Denis Charvet.
Bien sûr que non.
Julien Beneteau.
Eh oui, Denis l'a bien fait.
Tu veux qu'on parle de toi?
Fred Le Canu.
Oui.
C'est oui. J'ai un nom et je sens que cette question te prend aux tripes, mon cher Denis, donc oui, tu vas pouvoir réagir avant de débattre. On va retrouver notre spécialiste de tennis qui n'a pas son documentaire sur Netflix, mais c'est pas très grave, c'est Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules de légende.
Et ce que vous allez entendre est extrêmement intéressant parce que, Eric, il y a comme un doute sur l'envie de Carlos Alcaraz.
Oui, peut-être parce que cette gloire lui est tombée dessus très tôt. Trop tôt, mais avec le CV qui est le sien, il ne peut plus reculer. Il doit viser encore plus haut. C'est ce qu'il affirme avec des réserves.
Mon rêve, c'est d'être l'un des meilleurs de l'histoire. Oui, je veux m'asseoir à la même table que Nadal, Djokovic et Federer. Est-ce que je suis dans un état d'esprit de faire face à tout et de faire tout ce qu'il faut pour y arriver? Pour l'instant, je ne sais pas. Je suis encore jeune, il me reste beaucoup à vivre. Mais d'après ce que j'ai vécu, je préfère être heureux plutôt que de connaître un grand succès.
Dans ce documentaire, on le voit profiter de la vie, dévorer les bons petits plats de sa maman. Juan Carlos Ferrero, qu'on peut dire c'est son deuxième papa, sait qu'il a découvert et formé une pépite, mais l'ancien numéro mondial connaît les exigences du circuit, toutes les contraintes qui à la longue vous usent, et il a ces phrases lourdes de sens. Pour être le meilleur, tu dois être un esclave de ton sport. Il a une façon tellement différente d'appréhender le travail et le sacrifice que j'en arrive à douter qu'il puisse réellement devenir le meilleur joueur de l'histoire. Ferrero a lâché cette sentence sciemment, peut-être pour faire réagir son élève. Mais que dire de la pique de Roberto Bautista Agut, lâché lors du Masters 1000 de Madrid?
Le tennis au plus haut niveau demande beaucoup de sacrifices. Carlos ne gagnera pas de grand chelem en se couchant à 7h du matin. Pour l'instant, tout va bien, il est jeune et tout roule. Mais s'il veut atteindre le niveau des 3 cracks du passé, il faudra qu'il joue 15 ans. C'est un joueur et une personne intelligente et petit à petit, il va se rendre compte des choses à mettre en place pour durer au plus haut niveau et finira par les appliquer.
Visiblement, le vétéran espagnol sait des choses sur la vie hors circuit de Carlitos. Pour atteindre tous ses records, Novak Djokovic utilisait souvent en anglais le mot « dedicated ». Comprendre qu'il vivait pour le tennis 24 heures sur 24. Il menait quasiment une vie d'asset, pesant ses aliments au gramme près. Carlos Alcaraz entend laisser une trace à sa manière, peut-être avec le moins de contraintes possible. Hasard ou coïncidence, il n'est plus numéro mondial depuis le 11 septembre 2023.
Un champion peut-il renoncer à écrire l'histoire? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Débat que je trouve passionnant, les amis. Vous pouvez nous contacter et réagir aussi avec des sportifs de haut niveau. Toi, Christophe, tu as aussi suivi la carrière de nombreux athlètes. Un champion peut-il renoncer à écrire l'histoire? C'est non pour toi, Denis. Pourquoi non?
Ben, d'abord, il a tout dit quand il a dit je vais m'asseoir à la table je veux m'asseoir à la table des plus grands,
mais,
et Nadal.
Mais sans faire les sacrifices.
Mais les sacrifices, ils viennent avec le temps. Et puis, il est très jeune. Il faut se remettre dans la tête d'un gamin qui a 21 ans. C'est-à-dire que c'est pas un adulte, c'est pas un mec qui est mature. Forcément, et qui est en pleine crise d'adolescence, et avec les réseaux sociaux, avec la vie que mènent les ados aujourd'hui, ça a changé, le monde a changé pour cette catégorie de gens de 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme il y a aujourd'hui, il n'y avait pas la même occupation, le même divertissement. Aujourd'hui,
il n'y avait pas le même divertissement il y a 20 ans.
Non, pas forcément.
Mais tu n'avais pas envie de faire la fête comme aujourd'hui, quand tu avais 20 ans. Toi, quand tu avais 20 ans, tu n'avais pas envie de faire la fête.
Sa carrière, ses objectifs. Ce mec, il est trop dans la compétition, il est trop compétiteur pour laisser ta.
Je pense que c'est une question. Il est joueur, peut-être pas compétiteur.
Oui, mais enfin, quand t'as gagné 4 grands chelems, t'es compétiteur. Je suis désolé. Excuse-moi, mais je vois pas comment tu peux pas être compétiteur.
Il les a gagnés parce qu'il a sacrifié son adolescence. Parce qu'il
Mais
après, aujourd'hui, est-ce que quand t'as 20 ans, que t'as pas eu d'adolescence, que t'as pas pu faire ce que tu voulais, est-ce que t'as envie de continuer jusqu'à 30
mais Nadal l'a vécu aussi, ça.
Il est d'une génération différente. Et ça,
c'est la génération.
Je
suis d'accord avec toi.
Je pense que c'est générationnel et que aujourd'hui, et pas seulement dans le sport, les jeunes n'ont pas envie de mettre en avant leur carrière avant tout. Je pense qu'ils ont envie de vivre leur vie. Et ce mec-là, il a 21 ans, il est milliardaire, il a pas eu d'adolescence. Et ben peut-être qu'il aura envie de. Sans doute, peut-être dans 2-3 ans, mais laissez-le respirer. Je pense que la grosse erreur, c'est ses coachs qui la font. En lui mettant une pression comme ça, ils ne vont réussir qu'une chose à faire, c'est le mettre en burning out et le dégoûter du tennis. Comme d'autres en natation ont réussi à le faire. On parlera tout à l'heure la même chose. Laissez-les respirer. Ces mecs ont 20 ans, ils ont envie d'avoir une vie comme tous les jeunes de leur âge. Sauf qu'en plus, ils sont milliardaires, quoi. Donc,
Fred Le Cannet.
Ouais, je partage pas cette histoire générationnelle. Moi, je crois plutôt que c'est la différence fondamentale entre l'envie et le besoin. C'est-à-dire que quand t'as envie de quelque chose, tu vois, c'est basé sur les émotions, t'as envie, ok. Mais le besoin, tu vois, c'est cette base que t'as de manière vraiment intrinsèque qui t'amène à faire des choses. Et lui, de quoi il a besoin? Et quand on parle de sacrifice, tu peux pas mesurer un sacrifice. Au développé couché, tu peux compter le nombre de kilos. Mais la notion de souffrance sur le sacrifice, c'est très personnel. Donc lui, aujourd'hui, c'est un garçon qui a quand même une grande carrière, qui a déjà gagné des choses, et il sait tous les efforts qu'il doit faire pour continuer cette dimension-là. Et il en a peut-être pas besoin.
Mais il a gagné, c'est ça le problème.
Oui, il a gagné, sauf qu'il doit rien à personne à part à lui-même. Donc aujourd'hui, quand on dit oui, il faut qu'il soit...
Toi, t'as répondu quoi à la question? Parce que là, tu donnes des arguments, comme quoi tu dis il a le droit de pas écrire l'histoire.
Moi, c'est ce que je dis. Je dis oui.
Ah ok, oui,
je dis oui. Dans le camp de Denis, sauf là. D'habitude, je suis toujours avec Denis, mais là, je peux pas le suivre.
Mais ouais.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, comment tu peux mesurer la souffrance
chez toi? Mais bon,
ce que je veux dire, c'est que tu vois, à un moment donné, on peut pas répondre à la place du gars. Et quand on dit ouais, il faut qu'il fasse attention à son hygiène de vie, tu sais pas tout ce que ça lui coûte déjà d'être à ce niveau-là. Donc les sacrifices, ça veut rien dire. C'est une décision. Et lui, c'est très bien ce que ça implique. Ben oui,
c'est une décision.
Ça veut dire que la décision de ne pas être le plus grand, c'est dans le regard des autres et des gens, parce que ce qu'on lui demande, peut-être qu'il peut pas le faire.
Tu crois une seconde avec Alcaraz, quand tu vois le mec que moi je l'ai vu jouer, je vois le mec à l'extérieur, je crois pas une seconde que le mec.
Tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure, champion, compétiteur, c'est pas la même chose. Joueur, c'est pas la même chose. Avoir du talent, c'est pas la même chose que de dédier sa vie à la performance.
Tu crois qu'il est capable d'avoir la même carrière que Djokovic pour arriver au même nombre de.
Justement, la tâche est trop grande, c'est ce que je t'ai entendu dire.
Bien sûr. En fait, Nadal, Federer et Djokovic, ils ont écrit l'histoire du jeu ensemble, mais Federer et Nadal d'abord, entre guillemets, ils avaient 100 places en ligne de mire, 14 grands chelems. Federer, quand il commence à gagner, quand il est à son prime, déjà il sait que chaque année, il en a un. Ah oui, mais il était injouable pendant 5-6 ans de suite. Nadal, c'était l'inverse. Il était injouable à Roland. Donc, il savait, au départ du 1, il savait qu'ils avaient déjà un grand chelem par année, les mecs. Et après, ils se les ont bouffés entre eux. Et ça leur a permis de se dépasser. Et une fois qu'ils avaient dépassé Sampras et gagné tous les trois, les quatre ou six grands chelems, sur les quatre surfaces différentes, là, ils sont rentrés dans l'histoire ensemble et ils se sont tirés à la bourre. Alcaraz, il dit, je veux m'asseoir à leur table. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait minimum 20 grands chelems. Et s'il veut rattraper Djokovic, ça veut dire qu'il en faut 24. Il en a 4. Ça veut dire que pendant 10 ans, il faut qu'il en prenne 2 par an. Et si Alcaraz, quand il se dit ça, il se dit, ok, c'est trop dur. Et si je fais, qu'est-ce que ça va me demander? Je suis loin d'être sûr d'y arriver. Et que la relation besoin, envie, qu'est-ce que ça va me coûter dans ma vie? Je suis milliardaire.
Millionnaire pour l'instant.
Est-ce que j'en ai besoin? Il a le droit de se dire, je vais continuer de faire ce que je fais. Je vais en prendre quelques-uns. On va voir où ça va me mener. Mais peut-être que je ferai pas tout pour m'asseoir.
Et peut-être que j'en gagnerai que 10, mais déjà 10, c'est absolument exceptionnel.
S'il gagne l'Open Australia, il rentre dans l'histoire, parce qu'ils sont pas tant que ça à avoir gagné les quatre, déjà. Il dépasse des mecs comme Lendl, Sampras, Edberg et compagnie qui n'ont jamais réussi. Et voilà.
Je trouve que c'est le point essentiel de ce débat. Parce que quand on se dit, est-ce qu'un champion peut renoncer à écrire l'histoire? C'est que quand il voit le chemin à accomplir, quand il est doué, quand il est en avance sur tous les autres, je vous ai dit qu'il avait déjà quatre grands chelems à 21 ans, ce que personne n'a réussi à faire. L'immensité du travail. Tu me parlais, on discutait en off, Julien Beneteau, tu disais, s'il veut déjà égaler Nadal, il faut que jusqu'en 2035, il ne perde pas un match à Roland-Garros. Déjà juste ça. Quand Nadal commence en 2005 sa quête, il a Borg qu'à 6 Roland-Garros. 6 Roland-Garros, ce qui était énorme à l'époque, mais ce qui aujourd'hui nous paraît un peu ridicule, même si je le mets entre des gros guillemets.
Bien sûr.
Il y avait Pete Sampras qui était à 14, qui n'était pas à 24. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te dis,
ils ont banalisé le chemin, renoncer
à faire l'histoire des autres. Parce que la sienne, il la fera toujours. Là, ce qu'il renonce, c'est la projection d'aller dans un truc optimal qui va peut-être lui coûter trop de sacrifices à lui.
Oui, il le sait, ça. Mais quand il a les capacités, il a le droit de se dire, c'est déjà une incapacité.
Moi, je pense que c'est la capacité physique avant tout, parce qu'après, l'adversité, elle est moins forte qu'avant. Hein. Je suis désolé.
Oui.
Donc, il a plus un boulevard aujourd'hui devant lui que par le passé.
Bien sûr.
Ben oui. Donc,
c'est mental. C'est pas
mental, oui, bien sûr, c'est psychologique parce qu'il faut avoir mental pour faire
Mais le problème, c'est qu'il est pas régulier sur l'année, donc c'est pour ça qu'il est plus numéro un mondial. Au-delà de ses pépins physiques de temps en temps, etc. Mais parce que de temps en temps, il a un peu des trous par rapport à un Sinner ces derniers temps. Mais sur les grands chelems purs et durs, effectivement.
Il a moins d'adversité.
T'as l'impression que s'il s'y met.
Ben oui.
Il est en demi, il est en finale, et il peut gagner partout.
Mais c'est quoi le courage?
Il peut gagner partout.
Le courage, c'est mettre de l'énergie sur ses projets. C'est quoi son projet?
D'un côté,
il dit, je vais être le plus grand, et de l'autre côté, il dit, ah ouais, mais en même temps, j'ai réfléchi à ce qu'il faut mettre en place pour être le plus grand, c'est pas évident. Donc là, il sait pas.
Mais c'est pour l'instant,
le désir, c'est qu'il veut les rattraper, mais de là, après, il voit la montagne.
Les autres, ils ont banalisé. Tu parlais de Borg. Borg, c'est 6 Roland, 5 Wim. 11 grands chelems. À une époque, de pouvoir faire les deux, on se disait, mais en plus, le gazon était différent, on se disait, mais c'est incroyable. C'est si Roland de suite, en plus, je crois, Borg.
Et il arrête à 26 ans.
Et voilà. Mais on se dit, mais c'est incroyable.
Mais il peut faire une carrière à la Borg, Alcaraz.
Mais il a 11 grands chelems. Mais il a 11 grands chelems. Les autres, ils en ont le double. Ils ont le double de Borg. Oui. Nadal et Djokovic. Donc, et en fait, les mecs ont mis des repères.
Tellement haut.
Tellement, c'est n'importe quoi. 8 Wimbledon Federer, 9 Open d'Australie Djokovic, 14 Roland Nadal. C'est n'importe quoi.
Mais est-ce que tu débutes. Moi, je ne suis pas sportif de haut niveau, mais quand tu es sportif de haut niveau, quand tu débutes ta carrière.
Tu veux gagner Roland Garros.
Je vais être le GOAT. Tu te dis, je vais être le plus grand de tous. Tu veux gagner des tournois.
Je veux gagner Wimbledon, ou je veux gagner Roland Garros, ou je veux être numéro 1 mondial. Tu vois, c'est les 2-3 trucs qui te.
Je te rassure, quand tu arrives à l'INSEP avec David Douillet, tu pensais pas toi de Paris, tu pensais à survivre. Hein. Chacun ses objectifs. Quand tu es jeune à l'INSEP à 17 ans, David Douillet est athlète, je peux dire que tu penses pas au Paris.
Ça rejoint notre débat. C'est-à-dire que tu aurais totalement pu avoir les capacités de détrôner un David Douillet, mais est-ce qu'à un moment donné, tu dis en fait la tâche, elle est trop grande? Tu vois, c'est pour ça que
tu as le droit de renoncer. Tu sais, quand tu gagnes, que tu rejoins l'histoire, en fait. Parce que tu te mets dans l'histoire, en fait. Tu gagnes un tournoi,
donc
tu gagnes
un tournoi.
Tout le monde fait la mesure. Mais moi, je voudrais répondre à Eric, parce qu'il dit à 26 ans, Alcaraz peut arrêter à 26 ans. Ouais. Mais s'il gagne, si à 26 ans, il s'arrête comme Borg et qu'il est 11 grand chelem, c'est énorme.
Ouais, bien sûr.
Non, mais je veux dire. On sera obligé quand même de
comparer dans le comparatif.
Regarde le docu et tu comprendras beaucoup de choses, parce que c'est un garçon qui est, vous l'avez dit, qui est pas encore mûr, il a encore son petit lit d'ado dans la chambre de ses parents, ce qu'il adore c'est le repas de famille, c'est la scène après Roland Garros l'an passé où il vient voir Ferro, il dit faut que je parte 3 jours à Ibiza. Attends, t'as le Queen, ça préparait. Non, j'ai besoin de partir 3 jours à Ibiza. Et pendant 3 jours, c'est waouh, c'est la fête. C'est la et voilà, mais il en avait besoin.
Et ben, c'est la différence entre Nadal et Alcaraz. Voilà. Parce qu'à à l'époque, le Queens était collé à Roland Garros.
Le lendemain, tu devais être à Londres.
Moi, le jour de la finale de Roland Garros, en 2006, ça doit être, ou 7, je suis au Queens le dimanche. Le lundi.
Le jour de la finale.
Le jour de la finale de Roland. Le lundi. Nadal gagne, ça doit être son troisième ou quatrième truc. Je le vois à l'hôtel et je lui dis, putain, ça va, mais comme ça. Et là, il me dit, il me répond avec sa gentillesse et sa modestie légendaire. Genre, bah oui, ça va, ça peut que aller. Je viens de gagner. Il me dit pas, je viens de gagner Roland Garros, c'est ce que ça voulait dire. Mais à 18h, il était en train de taper sur le gazon, le mec. Ouais, le lundi, le lendemain.
Je pense que
il était en train de taper sur le gazon, le lendemain. On s'est tous fait la remarque. On s'est dit, mais si c'est nous. Et là, le Queen, s'il me voit le mercredi 15h, pour jouer 15h30, et lundi, mardi.
Toi.
Yannick, il a fait
combien de temps? La fiesta de Noah.
Le lendemain. Yannick Noah, avec tous les talents qu'il avait, il aurait pas pu faire une plus grande carrière s'il avait sacrifié peut-être un peu plus
sa vie. Bien sûr.
Oui, sa grande interrogation. Évidemment.
Parce que c'était quand même.
Mais pour revenir sur, on disait, est-ce que tu veux être le GOAT quand t'es petit? Non. Tu sais pas. Tu regardes la réaction de Nadal quand il gagne la première fois Roland Garros en 2005. Si, dans sa tête, il se dit, attends, mais moi, j'en gagne un, je m'en fous, j'en veux 10 de Roland Garros. Et tu réagis pas comme ça. Parce que sur le coup, tu sais pas si tu vas regagner un autre. Donc là, il est allongé par terre, il est foudroyé par l'émotion, et parce que, il a accompli son rêve d'enfant. Mmh. Il a accompli son rêve d'enfant. Quand il gagne Wimbledon la première fois après ce match de légende contre Federer, c'est la même chose. Il sait pas s'il va regagner. Donc son émotion, elle est magnifique. Alors qu'il est en train d'écrire l'histoire.
Elle est authentique.
Il est encore, en train d'écrire l'histoire, mais il sait pas où elle va s'écrire, son histoire, où elle va se finir.
Moi, je trouve que ce documentaire lui fait pas forcément de bien à Carlos Alcaraz. Pour l'image
bizarre.
Qu'il renvoie.
Ouais, c'est bizarre.
Non, mais c'est intéressant, parce que c'est pas un docu où on dit, ah, t'es le plus beau, t'es le meilleur. Non, c'est intéressant. Il y a beaucoup de réflexions autour de ça.
Et même dans le titre, je le disais, Carlos Alcaraz à ma manière. Tout est dit, mais il a le droit de poser le.
Ce qui est intéressant, c'est que son équipe, Ferrero, qui est son coach, qui dit ça face caméra, c'est rare dans le milieu du tennis, hein, Eric, tu vas pas me contredire. Son physiothérapeute qui dit qu'il faut qu'il pense au Carlos Alcaraz de 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, il faut qu'il pense à son corps dans 8-9 ans.
C'est un électrochoc, hein. S'ils le font, c'est pour qu'il se réveille. S'ils font ça, exactement. C'est pour qu'il se réveille.
Ouais.
Mais on mesure pas un truc quand même, c'est tout ce qu'il a mis en place avant pour en arriver là aussi. C'est-à-dire que là, on est dans une projection.
Ouais, exactement.
Tu vois, on dit, ouais, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. De temps en temps, il faut déjà regarder ce qu'il a déjà fait pour être là. Tout le monde peut pas être une machine.
Non. C'était passionnant, en tout cas. J'étais persuadé que vous alliez être excellent sur ce sujet, les copains. Sachez que Roland Garros, on en parle dans quelques jours, quelques semaines, avec Eric Salio, le podcast court numéro 1, podcast de tennis, évidemment, que vous pouvez aller télécharger.
Il y a Rome, j'y serai. Peut-être que j'attends
une émission,
le
verre. Ah, oui, évidemment.
L'entrée en ligne de Yannick Sinner.
Yannick, tu iras voir le nouveau pop.